Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français et surtout des entrepreneurs talentueux qui ne manquent pas d'idées créatives. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission aux circuits courts, c'est-à-dire ces circuits de distribution où interviennent le moins possible d'intermédiaires entre l'agriculteur ou le producteur et le consommateur. Ces circuits sont également synonymes d'un mieux manger, d'un respect de l'environnement, bref, de la qualité. À travers ces circuits, nos jeunes entrepreneurs français souhaitent privilégier le bon produit et rivalisent d'idées ingénieuses comme Gérard Duchemin dans L'aile ou la cuisse qui combat avec vigueur les produits industriels de l'odieux Jacques Tricatel.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et parmi ses adeptes du consommer autrement, il y a l'entreprise La Ruche qui dit oui, qui met en relation consommateurs et producteurs d'un même territoire. Bonjour Hélène Binet.
Bonjour.
Alors vous êtes responsable éditoriale de La Ruche qui dit oui, surtout responsable d'une ruche.
Oui, tout à fait, la ruche du comptoir général à Paris dans le 10e arrondissement.
Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette ruche qui dit oui.
Alors l'objectif de la ruche qui dit oui, en fait, c'est de créer des outils pour que chacun puisse reprendre en main son alimentation. Et donc ça permet, on a créé une plateforme web en fait qui permet de mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Donc, concrètement, moi je suis quelqu'un qui a envie de mieux manger, de rémunérer correctement les producteurs et d'accéder à une alimentation de proximité. Je vais sur le site de la ruche qui dit oui. Je choisis une ruche qui est proche de chez moi. Une ruche, c'est un point de distribution. Je commande ce que je veux quand je veux auprès donc de producteurs locaux, que des produits fermiers et artisanaux. Et ensuite, je vais chercher ma commande à un jour donné, dans un lieu donné. Donc là, en l'occurrence, au comptoir général, le samedi matin, entre 11h et 13h. Et là, je récupère ce que j'ai commandé, je peux rencontrer des producteurs et je rencontre également les gens de mon quartier qui ont aussi passé commande et qui viennent à ce rendez-vous hebdomadaire.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un mode de commercialisation en fait, qui existait depuis la nuit des temps, mais il était cantonné à quelques cercles et souvent même avec une démarche un peu militante. Et finalement, vous, avec ce concept-là, ben, ça a permis de l'ouvrir à d'autres, quoi. C'est vraiment un marché en France qui est en plein essor.
Oui, alors c'est vrai que les citoyens ont envie de savoir ce qu'ils mettent dans leur assiette. Ils ont envie aussi de savoir où va leur argent. Donc effectivement, la ruche qui dit oui, c'est un peu le marché qui existait autrefois où on allait acheter ses trois bottes de d'échalotes à un producteur, son petit crottin de chèvre à un autre. Enfin, et voilà, et le producteur était là et on savait exactement à qui on donnait son argent. Voilà, nous on est en 2018, on est à l'heure du numérique, donc on a créé des outils numériques pour cela. Mais ça n'empêche qu'on retrouve le côté convivial des marchés d'antan puisqu'on va chercher sa commande directement dans un lieu fixe. Quoi. Enfin,
c'est important pour vous de bien dire que le digital n'a pas enlevé le côté humain de la rencontre au marché. C'est complémentaire.
Exactement, mais par contre, il a permis d'aller plus vite parce qu'on a aussi les consommateurs, ils peuvent communiquer avec les producteurs via les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'on a aussi tous ces outils digitaux qui fait que l'information elle circule plus vite et ce qui est important, voilà, aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, on tient à ce lien fort qui est à cette espèce de magie d'alchimie qui se passe dans les ruches.
Alors, physique, quelle est la différence avec une AMAP pour ceux qui connaissent ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne avec la ruche qui dit oui?
Alors clairement, on appartient à la même famille. Hein. On est un peu des cousins. Une AMAP, en fait, c'est un contrat que va passer un consommateur avec un producteur où il va s'engager en fait à lui préacheter sa récolte. Donc, il va s'abonner à un producteur et dire, ben voilà, on peut en 6 mois, voilà, c'est un contrat que je passe avec toi. Toi, tu vas me fournir des légumes et moi, je te donne à l'avance une certaine somme d'argent, quoi. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, le consommateur, ben, récupère ce que le producteur a pu récolter ce jour-là, ou des fois, c'est des groupements de producteurs, voilà. Les AMAP, elles sont animées par des bénévoles.
Voilà. Oui,
c'est la différence. Enfin, tout ça est différent, mais je vous dis, on est quand même vraiment de la même famille.
C'est la même idée. C'est-à-dire manger mieux, essayer de limiter les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Quand on voit que 20% des agriculteurs aujourd'hui vendent toute une partie de leur production en circuit court, on peut dire que c'est un vrai relais de croissance pour eux.
Oui, tout à fait. Alors après, tous les agriculteurs ne peuvent pas passer de jour au lendemain au circuit court. Hein. Quand on a été éleveur laitier et qu'on a tout vendu à la coopérative, c'est pas facile de jour au lendemain de se mettre à fabriquer ses yaourts. Voilà. Mais en tout cas, les agriculteurs que l'on a dans le réseau, certains étaient avant dans ce qu'on appelle des circuits longs, et en fait étaient assez tributaires des aléas du cours du lait, du bon vouloir de la grande distribution. Voilà, quand ils vont dans le circuit court, c'est eux qui définissent les règles du jeu, et c'est vrai que c'est une vraie soupape, et c'est un... Voilà, souvent ils disent.
Puis finalement, vous faites liberté, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est peut-être un gain de temps aussi pour eux et d'argent, parce que c'est un autre métier finalement. Marketer son produit, communiquer dessus, le travail de commercial, on n'est pas toujours à l'aise avec ces autres métiers.
Bah, c'est vrai que la ruche, dit oui, du coup, ça leur offre une vitrine, puisqu'ils peuvent, ils peuvent mettre en ligne tous leurs produits. Il y a une présentation aussi qui est faite de leur. De leur exploitation, de leur ferme. On a aussi un gros volet pédagogique à La Ruche qui dit oui, avec un magazine en ligne où on a 250 000 lecteurs par mois, où on va faire des portraits de producteurs, on va donner des conseils, des repères de consommation. Donc oui, la Ruche qui dit oui, l'idée c'est qu'elle les aide clairement à se faire connaître, à se faire comprendre.
Start-up qui a bien grandi. Alors aujourd'hui, combien de salariés, combien de producteurs font partie de La Ruche qui dit oui?
Alors aujourd'hui, on est dans 8 pays en Europe. Je vais vous donner les chiffres pour la France. En France, donc, on travaille avec 1000 producteurs. On a 1000 ruches. Et l'équipe de salariés, là, du coup, pour le coup, au global, on est à peu près 80.
Comment vous faites la sélection des artisans? À partir de quelle distance on considère que ça n'est plus un circuit court, d'ailleurs, pour bien qualifier?
Alors nous, il y a une limite qui est fixée, qui est 250 km. Donc, en fait, quand on a un producteur et qu'on a plus de 250 km, ben, on ne peut pas distribuer dans une ruche qui se trouve à plus de 250 km. Ça, c'est pour le gros de la ruche qui dit oui. En revanche, on s'est rendu compte avec le temps que pour certaines productions, c'était limitant. Je m'explique, par exemple, tout ce qui est IGP. Donc,
indication géographique protégée.
Voilà. Quand on fait du Morbier dans la région du Morbier, tout le monde vend du Morbier. Donc, en fait, ce n'est pas intéressant de vendre dans cette région-là. En fait, pour eux, c'est plus intéressant de vendre du Morbier en Bretagne qu'en vendre...
en dehors de son territoire.
Voilà. Donc, voilà. Pour ces productions-là, en fait, on ouvre la frontière des 250 km. On appelle ça les producteurs invités pour leur permettre aussi de vendre un peu plus loin sur le territoire.
Et quelle est la prochaine étape, alors, de cette ruche qui ne cesse de grandir? Donc, vous êtes présent dans 8 pays en Europe?
Oui. Alors, la France reste c'est le lieu de création de la ruche, donc c'est là où l'activité est la plus importante. Qu'est-ce qu'on a comme activité? Eh bien là, en fait, on lance un mouvement aujourd'hui, donc voilà, c'est un scoop, on ne l'a pas encore lancé, on va le lancer dans 2 heures, qui s'appelle Fourchette Power, qui invite en fait tous les gens qui consomment plus bio, local, responsable, à le faire savoir avec le hashtag Fourchette Power. Et l'idée, c'est de montrer qu'on est nombreux à être dans cette démarche et qu'on est nombreux à vouloir changer le monde avec notre fourchette. Et quand on voit que la loi alimentation elle est passée à l'Assemblée, il n'y avait que 44 députés la voter la semaine dernière, il n'y avait donc personne. Nous, on veut montrer que nous, on est beaucoup, beaucoup et qu'on veut que ça change. Et voilà, nous, on pense que les consommateurs ont réellement le pouvoir et qu'ils peuvent... Un produit qu'on n'achète pas, il se vend pas. Donc, un produit qu'on achète, il se vend et il se développe. Donc, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est...
Mobilisons-nous.
Mobilisons-nous, faisons les bons choix et faisons le savoir. Parce que je crois que là, il y a besoin qu'on fasse du bruit.
Bravo, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hélène Binet. Je rappelle que vous êtes donc à la tête d'une ruche, de la ruche qui dit oui. Donc, il y en a combien? Vous m'avez dit en tout 1000 à peu près, c'est ça?
C'est ça, en France, oui.
Voilà, donc merci encore et on espère qu'il y aura du monde à ce mouvement et encore un grand bravo.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Connaissez-vous l'application Épicerie qui permet de vous faire livrer les meilleurs commerçants de votre quartier? Encore une start-up qui veut nous inciter à mieux manger. Eh bien, on en parle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue dans C'est ça la France, consacré aujourd'hui au circuit court, ce phénomène qui ne cesse de grandir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous fournir directement chez le producteur. Eh bien, heureusement, il existe des applications qui vous facilitent la tâche.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
La French Tech, la Food Tech, on en parle tout de suite avec Elsa Hermal, cofondatrice du site Épicerie. Une idée géniale, alors je la raconte rapidement aux auditeurs de Sud Radio. C'est une application qui permet de se faire livrer des produits frais directement des commerçants triés sur le volet et de votre quartier. C'est bien ça, Elsa ?
Oui, tout à fait. Alors, épicerie, donc avec un Y, disponible sur votre téléphone ou sur épicerie.com, vous permet de commander en ligne directement vos brocolis, vos filets de poulet, vos filets de saumon chez les commerçants et artisans de quartier. Donc, des bouchers, des primeurs, des poissonniers.
Ça veut dire que c'est aussi bien des produits bruts que transformés ?
Oui, exactement. Donc, nos clients achètent essentiellement des fruits et légumes, de la viande et du poisson, mais aussi parfois des produits de traiteur, du fromage, et ensuite se font livrer à la maison, à l'heure qu'ils le souhaitent, ou même dans l'heure, c'est possible pour les plus pressés.
Dans l'heure ?
Oui, tout à fait.
Et alors, comment ça marche concrètement ? On peut personnaliser son application, indiquer les commerçants que l'on préfère en général ?
Oui, tout à fait. Alors, vous connectez donc sur épicerie.com ou sur votre smartphone sur Android ou iOS, l'application épicerie. Vous rentrez votre adresse et vous découvrez les commerçants et artisans partenaires à proximité de chez vous ou dans votre ville. Donc, c'est des bouchers, des poissonniers, des primeurs. Vous choisissez les produits que vous souhaitez. Donc, poulet, viande, poisson, légumes, fruits.
Uniquement alimentaires ?
Uniquement alimentaire, tout à fait. Vous les ajoutez à votre panier. Vous choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez être livré, dans l'heure ou au créneau de votre choix. Et ensuite, vous faites livrer même au cinquième étage sans ascenseur.
Alors, comment cette idée a-t-elle germé ? Parce que vous êtes cofondatrice de ce site.
Oui, tout à fait. Je suis cofondatrice d'épicerie avec Édouard Morange. Comment l'idée est née ? C'est très simple. Quand j'ai commencé à travailler, comme beaucoup de gens, j'avais de moins en moins de temps, mais en même temps, très très envie de mieux manger. Mieux manger, pour moi, ça voulait dire me sourcer d'abord en produits de qualité. Et j'étais extrêmement frustrée de ne pas retrouver en semaine la même qualité des produits que j'avais quand je faisais mon marché de quartier le week-end. Donc j'ai décidé de mettre en ligne ces produits pour permettre de remplir mon frigo tout simplement avec des produits de la meilleure qualité des petits artisans au jour le jour. Ça me permet donc, et ainsi qu'à tous nos clients, de mieux manger mais aussi de gagner du temps.
Et vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans ?
Oui, j'ai 29 ans.
Alors justement, vous parliez de ces problèmes de ces agendas très chargés. Il y a des heures d'ouverture, de fermeture de l'application ? Parce que j'imagine que vous êtes lié aux commerçants ou bien il y a une zone de stockage qui vous permet de livrer à n'importe quelle heure ?
On livre entre 8h et 21h, ce qui nous permet en fait de nous reposer essentiellement sur les horaires d'ouverture des commerçants, mais éventuellement de faire des tournées et de faire un stock tampon si les clients souhaitent se faire livrer plus tard. On s'adresse à des gens effectivement qui travaillent, donc qui en général ont assez peu de temps ou beaucoup à des familles qui préfèrent passer du temps avec leurs enfants le soir plutôt que de courir les magasins après le travail.
Alors aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de villes ?
Alors aujourd'hui, on est présent dans une vingtaine de villes puisqu'on est présent à Paris et dans les premières villes autour de Paris dans lesquelles on se développe, donc à Neuilly, Levallois, Boulogne, Saint-Mandé, Vincennes, Clichy et j'en passe, et également à Lyon et Villeurbanne. Et on souhaite se développer dans toute la France.
Quels sont les avantages pour les commerçants qui font partie de cette application, comment ça se passe au niveau du modèle économique ?
Alors donc nous aujourd'hui on travaille avec 400 artisans et commerçants de quartier. Donc je le rappelle, les artisans qui sont sur épicerie, c'est des bouchers, des primeurs, des poissonniers. Ce qui est génial, c'est qu'on met vraiment en avant leur savoir-faire et on met leurs produits en ligne, ce qui n'existait pas auparavant, avant qu'épicerie existe. Et donc ces commerçants et artisans, pour toutes les ventes que nous leur apportons via leur plateforme, ils nous rémunèrent via une commission. Donc le fait de mettre leurs produits en ligne ne leur coûte rien, mais ils viennent nous rémunérer seulement pour les ventes que nous leur apportons.
Alors je le rappelais tout à l'heure, vous êtes toute jeune, hein, à peine 30 ans, enfin pas encore 30 ans. Vous faites partie des start-upeuses françaises qui ont été repérées par Forbes. Attention, la start-upeuse française européenne de moins de 30 ans à suivre, c'est une fierté.
Alors effectivement, même c'est une grande fierté. Même Forbes a été séduit par notre concept qui permet à la fois de concilier les nouveaux outils du digital et le savoir-faire artisanal des petits artisans et commerçants. Donc c'est une grande fierté et c'est le signe qu'on répond effectivement aux enjeux des consommateurs d'aujourd'hui, qui est de mieux manger, de gagner du temps, mais tout en souhaitant se rapprocher de l'authenticité, de la qualité des commerçants et artisans de son quartier.
Alors à Sud Radio, et notamment dans C'est ça la France, on aime mettre en avant ces belles réussites, notamment ces jeunes entrepreneurs. Alors est-ce que ça a été compliqué à mettre en place, à trouver un écosystème favorable ?
Alors, je pense que quand on a décidé de lancer épicerie, on avait non seulement une forte demande des consommateurs de mieux manger qui grandit encore, mais ensuite le développement de plus en plus d'applications, ce qui fait que les consommateurs sont habitués à avoir dans leur smartphone tous les outils du quotidien. Donc c'était assez naturel de venir proposer une solution qui leur permette de faire des courses de qualité. En plus, les commerçants et artisans ont eu un super, vraiment un super écho quand on est allé les voir. On leur a parlé d'épicerie, on leur a proposé de digitaliser leur boutique. Les bouchers, des primeurs, pour la plupart, vendent leurs produits sur Internet, c'était inimaginable. Et finalement, ils ont très bien reçu épicerie parce que c'était la première fois que quelqu'un venait leur proposer un service clé en main qui leur permettait de vendre leurs produits sur Internet.
Mais vous n'aviez pas une grande expérience dans l'entrepreneuriat avant de vous lancer dans cette belle aventure. Vous avez été accompagnée? Si oui, de quelle façon?
Alors,
parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, voilà, une jeune femme, 28 ans, elle a une super idée. Et aujourd'hui, épicerie a été même repérée par Monoprix. Donc, on sent que les grandes surfaces s'emparent de ce phénomène-là. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'idée, la théorie, à la pratique, hein?
Alors, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est assez, qui se fait beaucoup dans l'itération. Donc, on vient avec une idée, on essaye de trouver, avec toute la débrouille qu'on peut, des solutions pour le mettre en place. Donc, la grande force d'épicerie, c'est d'avoir un modèle économique qui est assez efficace, puisqu'en fait, on n'a pas eu besoin d'avoir des stocks, des entrepôts, etc. Mais tout simplement de faire l'interface entre les petits commerçants et les consommateurs. On a effectivement été accompagnés dès le début par des business angels qui nous ont apporté
des mécènes, hein, sur des mécènes.
Voilà, c'est pas tout à fait des mécènes, puisqu'en fait, ils vont investir de l'argent en échange de parts dans la société. Oui. Et on dit souvent qu'ils apportent de l'argent, mais aussi des compétences, puisque c'est des entrepreneurs qui sont déjà chevronnés. Donc, parmi les investisseurs qui ont suivi Épicerie depuis le début, on a Marc Ménassé de Nextedia et Founders Future, on a les cofondateurs de Vente Privée, on a le fondateur de Wonderbox, on a le fonds Kima Venture de Xavier Niel, et vous l'avez dit plus récemment, le groupe Monoprix qui a décidé d'investir pour nous permettre d'accélérer notre croissance. Donc toutes ces personnes sont convaincues qu'épicerie vient répondre à une demande actuelle des clients et souhaitent nous aider à développer notre solution pour permettre à tout le monde de mieux manger et en même temps de soutenir les petits commerçants de quartier avec une application hyper facile qu'on peut retrouver dans son smartphone au jour le jour.
Et la prochaine étape ? Pour finir.
Alors, la prochaine étape, c'est de développer épicerie de façon exponentielle, à la fois dans les villes dans lesquelles on est présent. Donc, j'espère que tous nos auditeurs entendront parler d'épicerie, mais aussi que ceux qui ne sont pas dans les villes où on est présent, en région parisienne et en région lyonnaise, sauront qu'on arrive bientôt, puisque notre objectif, c'est aussi de se développer dans toute la France.
Merci beaucoup, Elsa Hermal. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'application Épicerie, hein, qui permet justement, depuis chez soi, depuis son canapé, pouvoir se fournir en circuit court. Encore un grand merci et longue vie à cette belle entreprise.
Merci.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Et oui, avec Thibault, on prend l'air, on continue de voyager à travers les régions, mais cette fois-ci, micro à la main, vous allez à la rencontre de ces porte-drapeaux du Made in France, hein, ces passionnés qui ont du talent et qui aiment partager leur savoir-faire. Alors, de qui allez-vous nous parler cette semaine, Thibault ?
Eh bien, je vais vous faire découvrir le travail de Fabien Puginier. C'est quelqu'un qui travaille le bois, le fer, le béton, pour fabriquer du mobilier et des luminaires haut de gamme. Il a sa propre marque qui s'appelle Brut Design, mais c'est pas fini. C'est aussi un véritable artiste qui crée toutes sortes d'objets d'art. Alors je vais demander comment il définit son métier. Vous allez écouter sa réponse. On est dans sa cuisine, dans sa maison de Villeneuve-de-Mézin. C'est juste à la limite entre le Lot-et-Garonne et le Gers.
Artisan designer, je dirais.
Artisan
designer. Oui, c'est-à-dire je crée, je dessine le mobilier que je crée, tout simplement. Là, on peut le voir à côté de nous, il y a un luminaire. Il y a eu vraiment une étape papier où j'ai vraiment dessiné ça en prenant le temps de réfléchir à la forme globale et donc après définir des côtes et ensuite passer à l'étape fabrication et arriver au produit fini, tout simplement. Donc,
par exemple, ce luminaire, il est fait à partir de quoi ? C'est quoi la matière ?
Ça, c'est un pliage de feuilles d'acier. Comment l'expliquer ? Il y a comme une meurtrière qui laisse passer la lumière et avec un piétement qui est en fait pris sur une poutre. Et, en fait, c'est très basique, très cubique. Ça habille, ça donne un côté moderne à cette maison qui est plutôt on va dire, ancienne, voire c'est une maison ancienne tout simplement.
Vous me parlez de luminaire, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Vous avez commencé par des études d'électricien, je crois.
Oui, tout à fait, oui. C'est... C'est par là. Enfin, c'est pour ça que je suis à l'aise avec avec les branchements et avec ce monde, on va dire, de l'électricité, tout simplement.
Alors si on revient un petit peu en arrière, c'est quoi exactement votre parcours?
Alors j'étais destiné par le biais familial à reprendre l'exploitation. Donc j'ai fait un BTS dans le domaine agricole. Et bon, comme j'avais fait ça un petit peu sans conviction, puis j'avais toujours ce côté, entre guillemets, artistique, voire même créatif, hein, à l'intérieur, et refoulé. Donc, ensuite, voilà, j'ai eu l'idée de faire cette formation en électricité. En fait, ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier vers le bâtiment, on va dire. Donc après, j'ai fait un petit peu de plomberie, c'était lié aussi, plombier électricien, voilà. Et après, par mes grands-parents, j'avais aussi vu la taille de pierre, la charpente et aussi le travail de l'acier. Donc j'avais quand même déjà une pré-formation familiale.
Ah, donc sacré parcours, hein, dis donc. Et en plus, j'ai le sentiment qu'il maîtrise plusieurs savoir-faire.
Exactement, et j'ai eu la chance de visiter sa maison, qui est un peu la vitrine de tout ce qu'il sait faire. C'est une ancienne grange qu'il a complètement réaménagée à sa façon, avec toujours ce côté artistique qui est le sien.
Alors, il y a un magnifique escalier en métal.
On peut monter.
On entend nos pas sur le métal.
Voilà.
Et donc c'est fait, c'est évidemment vous qui l'avez fait.
Oui, c'est une feuille d'acier qui a été pliée. C'est fait à la plieuse numérique. Il était en 3 ou 4 parties, je ne me rappelle plus très bien. Et donc on a monté ça, une bonne journée de travail. Donc voilà, là on arrive à côté de la salle de bain, qui est une salle de bain, on va dire, qui est en béton ciré. Ça c'est vraiment le, entre guillemets, ma spécialité dans les salles de bain et plein de travail de cuisine. Voilà, donc on peut continuer. Là il y a la chambre de fiston.
D'accord, il y a une vue incroyable. Il y a une...
Ouais. On peut aller sur la terrasse.
Allez, on va aller sur la terrasse, allez.
On va aller sur la terrasse.
Donc on est face à une petite peuplerie.
Ouais.
Et on a une vue incroyable sur la campagne gasconne.
Voilà, les tournesols, on a le toit végétalisé à côté de nous, on a les landes. En fait, ici, c'est le mélange de deux terroirs. En fait, on a la fin du terroir gascon et le début du plat des landes qui commence au loin.
Donc là, vous avez visité la maison, mais on aimerait bien savoir comment il travaille, ce Fabien.
Et bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la visite de l'atelier.
Vous aimez bien regarder comme ça, hein, sous le pied, mais c'est très bien. Voilà. Le rendez-vous est pris, on visitera ensemble son atelier donc la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis dans C'est ça la France consacrée au circuit court. Donc peut-être qu'on vous a donné envie, bah, soit de faire appel à des AMAP ou bien à toutes ces applications qui ne cessent là aussi de prendre de l'ampleur comme épicerie ou encore la ruche qui dit oui. Allez, à la semaine prochaine.